Les premiers savants métis issus de l'île et à qui l'on doit notamment les premières cartes de Madagascar, de l'île Maurice ou de la Réunion. Entretien ensuite avec Richard Ranjanamandrat, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar et candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Direction enfin le Gondwana avec la chronique de Maman, mais tout de suite ce sont les sports. Les sports ce matin avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Et du football pour démarrer ce journal avec Thomas Partey, le Ghanéen, qui participe à la belle soirée d'Arsenal.
Le milieu de terrain des Black Stars a permis aux Gunners de mener 2-1 face à Manchester City juste après l'égalisation d'Erling Haaland. Arsenal qui a ensuite enchaîné pour s'imposer 5-1 et prendre 9 points d'avance sur les Citizens au classement. Autre performance africaine notable en première ligue, celle du Sénégalais Pape Matar Sarr qui soulage Tottenham avec un but à la 87e minute pour verrouiller le succès des Spurs 2-0 sur la pelouse de Brentford.
En judo, le Paris Grand Slam, le premier grand événement de l'année, s'est tenu à l'Arena de Bercy à Paris.
Avec la déception de la malgache Laura Rasouanaïve, éliminée d'entrée dans la catégorie des moins de 70 kg. Alors qu'elle avait le combat en main, Eric Mamrut.
Je suis totalement pas d'accord, c'était vraiment mon combat.
Pas d'accord, Laura Rasouanaïve, d'avoir vu son contre sur Melissa Myers, d'abord comptabilisée, avant d'être annulée et renversée au profit de l'attaque de l'américaine. Une interprétation arbitrale synonyme de défaite pour la judoka de 21 ans, mais qui n'effaçait pas son attitude très conquérante affichée jusque-là. Rien à voir avec celle pleine de stress des Jeux Olympiques de Paris.
Je me sens très bien, je commence vraiment à gagner de l'expérience. Là où je me sens le mieux, surtout, c'est que je me suis améliorée mentalement. J'ai plus trop de stress, je me sens vraiment à ma place maintenant. Ce qui me permet vraiment de m'améliorer en ce moment, c'est d'aller faire les stages internationaux, de prendre les filles que je dois prendre en compétition. Et voilà, me dire que j'ai confiance en moi, ça aide beaucoup.
Numéro 1 mondial en junior, il y a 2 ans, la pépite malgache ne devrait pas tarder à confirmer en senior. C'est l'avis du responsable du Centre de solidarité olympique de Rouen, Nicolas Mallet.
Pour moi, ça fait partie des athlètes africains et africaines à surveiller pour les années qui viennent, parce qu'il y a un réel potentiel. Et là, de ce qu'on a vu aujourd'hui, de toute façon, ça confirme les biens que pas mal d'entraîneurs extérieurs peuvent dire d'elle. Et ça permet d'être extrêmement confiant pour elle, pour la suite. Et ouais, je suis persuadé qu'on la retrouvera un jour ou l'autre sur les podiums internationaux.
Laura Rasouanaïve, sur qui la Fédération internationale a misé en lui finançant plusieurs grandes compétitions par an jusqu'aux Jeux de Los Angeles.
Et sur les 17 combattants africains engagés ce week-end lors de ce Paris Grand Slam, seuls 2 ont franchi un tour. L'Angolaise Fernanda Kimbira en plus de 78 kilos et l'Ivoirien Jérôme Zelman en moins de 73 kilos.
Et on termine, Antoine, avec le tennis. Le Bénin sera bien au tournoi qualificatif pour la Coupe Davis.
Après un succès sur la Lettonie à Cotonou, 2 victoires en simple, 1 en double, les Béninois ont brisé leur plafond de verre. Et le capitaine béninois Bruno Danouan en était ému au micro de Théophile Hazard.
Le Bénin a une équipe homogène. Vous voyez, ces joueurs, ils ont presque le même niveau, à part leur grand frère Alexis, a un petit écart. Tout ça s'avoisine. Contre l'équipe lettonne, nous avons juste distribué les cartes de façon à ce que, au moment opportun, qu'on ait celui qu'il faut pour faire la différence. Donc le double a été décisif. Ça nous a permis, en fin de matinée, d'être devant. Et le match contre Strombach, nous savons que si on l'abordait avec beaucoup de courage, on y arriverait. Mais nous avons notre carte qui était Monou, qui était là, qui pouvait faire la différence. Donc ce n'est qu'une façon plus intelligente et plus stratégique d'utiliser les joueurs qu'on a à notre disposition.
Les barrages du premier tour qualificatif qui auront lieu en août 2025. Le Maroc en sera après sa victoire sur le Zimbabwe 4-0. De même que l'Afrique du Sud qui a dominé le Nigeria 3-1.
Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports. Reportage à Port-Louis sur l'île Maurice dans une minute. Avant cela, l'essentiel de l'actualité internationale de ce lundi 3 février. Donald Trump ouvre la porte à des discussions avec le Canada et le Mexique. Il appellera aujourd'hui le Premier ministre canadien et la présidente mexicaine. Le Canada, comme la Chine, va contester les droits de douane augmentés devant l'Organisation mondiale du commerce. Le secrétaire d'État américain, lui, menace le Panama de mesures en l'absence de changements immédiats sur le Canada. Canal de Panama. Le président panaméen propose des discussions techniques aux États-Unis et dit ne pas croire à une intervention militaire. Des dizaines de milliers de manifestants dans le centre de Berlin contre un rapprochement amorcé entre la droite et l'extrême droite allemande à 3 semaines des élections législatives. Le favori du scrutin, le chef de file de la CDU, Friedrich Merz, qui a fait adopter mercredi au Parlement une motion non contraignante appelant une répression sévère contre l'immigration clandestine avec le renfort des voix du parti d'extrême droite AFD. Et puis en France, le Premier ministre François Bayrou fera usage pour la première fois aujourd'hui de l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget. Il ouvre ainsi la porte à une motion de censure à l'issue incertaine soumise au vote mercredi.
RFI à Port-Louis, 93.2 FM.
Et direction donc l'île Maurice, ce matin sur les traces de Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy. Alors qu'à Port-Louis s'ouvre aujourd'hui la conférence de l'UNESCO sur les routes des personnes mises en esclavage et qu'avant-hier, Maurice a célébré le 190e anniversaire de l'abolition de la traite négrière. Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy, ingénieur géographe, membre de la première société savante de Maurice, correspondant de l'Académie royale des sciences françaises. On lui doit aussi les premières cartes des îles de la région, Madagascar, Maurice et La Réunion, où il a laissé son empreinte. Reportage d'Abdullah Erali.
Le métis Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy a participé aux grands travaux de génie civil et militaire à Port-Louis au temps du système esclavagiste colonial. Longtemps oublié, ce premier savant de sang mêlé des Mascareignes renaît aujourd'hui à travers Grand Noir, un ouvrage signé Didier Souben.
Le livre démontre comment, à une époque de notre histoire, il y a eu l'esclavage, il y a eu un code noir qui interdisait le mélange entre blanc et noir, et que dans cette même époque, il y a eu un petit jeune, le premier métis qui est devenu le savant de la zone indienne-océanique.
Né en 1755 à La Réunion, Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy est le fils d'un blanc et de l'esclave Niama. Devenu ingénieur géographe, il a réalisé les premières cartes précises des Mascareignes. L'une d'elles est exposée au Blue Penny Museum à Port-Louis. Un travail qui fascine encore aujourd'hui Emmanuel Richon, conservateur du musée.
C'est quand même à lui qu'on doit les premières cartes de Madagascar et des Seychelles. Et puis les premières cartes, par exemple, avec La Réunion. Et Maurice, à la fois, c'est lui qui a fait les premières cartes terrestres et maritimes de toute cette région, quoi.
Son expertise impressionne à tel point le milieu scientifique qu'il est nommé membre correspondant de l'Académie royale des sciences en France. En 1810, lors de la conquête britannique de Maurice, Lisley-Geoffroy est commandant en chef du génie. Ses qualités sont tout de suite reconnues par l'administration britannique.
C'est lui qui a remis les clés, qui a fait le travail de passation entre l'administration française et l'administration anglaise. Il était quand même un peu diplomate, quoi, pour servir de lien entre les deux. Et d'ailleurs, il a fait les deux premières cartes anglaises. Ça s'appelle encore Île-de-France dessus.
Comment Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy s'est-il fait connaître dans la région? Tout commence à La Réunion, où le naturaliste français Philibert Commerson le découvre lors d'un voyage dans les Mascareignes, selon le président de la Société royale des arts et des sciences de l'île Maurice, Pierre Bessac.
C'était le premier contact avec Lisley-Geoffroy. Certainement Commerson, revenant à Maurice, en a parlé, et il l'a donc fait venir. Et donc, Lisley-Geoffroy s'est implanté à Maurice et resté à Maurice. Comme ingénieur, il avait ses bureaux de la marine ici à Port-Louis.
Jean-Baptiste Lisley-Geoffroy meurt à Port-Louis en 1836, à 81 ans. À l'annonce de son décès, l'Académie des sciences en France saluait un homme de brillante intelligence, chercheur de valeur et érudit. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI.
Et demain, le reportage Afrique sera en Côte d'Ivoire. Notre correspondante s'est intéressée à l'utilisation que l'on peut faire des drones en milieu rural. Afrique Économie est une usine à l'arrêt et des habitants soulagés à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Une usine qui est même en cours de démantèlement, celle de Metsa Congo, entreprise aux capitaux indiens, est spécialisée dans le recyclage des batteries au plomb. Sa fermeture a été décidée par le gouvernement congolais après que les habitants se soient plaints de pollution. Reportage de Loïcia Martial.
Le dos tourné au centre de Pointe-Noire, nous nous dirigeons vers le poste de péage de Mengo, au nord de la ville. Plusieurs mètres sur la droite se dressent les fourneaux de Metsa Congo. En approchant de l'établissement, on constate que toutes ces portes sont fermées. Les dirigeants et au moins 70 employés sont introuvables. Cyril Traoré Dembi, président du collectif des riverains, explique pourquoi.
Au moment où nous parlons, l'usine est en cours de démantèlement. Suite à une décision qui a été prise par Madame la ministre de l'Environnement, sommant l'usine à démanteler ses installations et à partir s'implanter ailleurs.
En 2013, cette société a mis en place un système de collecte auprès des vendeurs ambulants. Des déchets contenant du plomb et de l'aluminium. Elle procédait ensuite à la fusion de ces composants pour les transformer en lingots qui sont ensuite exportés. L'arrêt des activités de cette usine représente un manque à gagner, selon Alphonse Ndongo, analyste économique.
Une société comme celle-là représente considérablement un poids économique dans la mesure non seulement elle offre des emplois aux jeunes, mais aussi en termes de contribution fiscale.
D'après une source proche du dossier, aucun site n'a été trouvé pour réinstaller cette société suite à son démantèlement. Une situation qui questionne Alphonse Ndongo, qui craint que les batteries jadis recyclées ne soient jetées sauvagement dans la nature.
Une décision, peut-être qu'elle n'aurait pas dû se prendre comme ça à la va-vite, il fallait peut-être en tenir compte et créer un mécanisme qui permet de délocaliser le lieu d'implantation de cette société afin que l'État et ceux qui sont aux alentours ne perdent pas tout.
La société a été fermée suite aux plaintes des riverains qui dénonçaient une pollution au plomb. Aujourd'hui, ils se sentent soulagés.
Désormais, nous n'avons plus à inhaler les fumées ni à ingérer les poussières de plomb.
Entre la maladie et le travail, je crois qu'autant mieux se préserver de la maladie que de chercher à gagner de l'argent qui vous rendra malade.
Pour ces riverains, l'action du gouvernement est salvatrice, mais ils souhaitent également des dédommagements de la société. Ils affirment que leurs sols ont été pollués par le versement des résidus d'huile. Loïcia Martial, de retour de Pointe-Noire, RFI.
À Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville, où il est 5h53. 7h53 à Antananarive, à Madagascar, d'où vient notre invité Afrique ce matin, l'ancien ministre des Affaires étrangères de la Grande Île, Richard Rangiamandrat. Il est l'un des trois candidats ce mois-ci à la succession de Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l'Union africaine. Trois candidats à qui RFI donne cette semaine la parole. Et Christophe Boisbouvier a notamment demandé à l'ancien chef de la diplomatie malgache s'il ne regrettait pas que l'Union africaine laisse les Nations Unies gérer le conflit armé dans l'est de la République démocratique du Congo.
De prime abord, on peut dire que les crises sur tous les continents devraient revenir évidemment à des instances continentales telles que l'Union africaine ou le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Tout cela est possible, mais voyez-vous, le Conseil de sécurité des Nations Unies, il faut le reconnaître, c'est l'instance planétaire qui résout les problèmes de cette envergure. Donc, je ne m'en offusque pas pour autant. Je pense que l'Union africaine doit être présente dans les prises de décision au niveau du Conseil de sécurité. J'espère que l'Union africaine ne soit pas écartée de la résolution de la crise dans l'immédiat.
Dans la guerre au Nord Kivu, tout le monde désigne le Rwanda comme complice, sauf l'Union africaine et les trois pays qui représentent l'Afrique à l'ONU. Pourquoi cette retenue?
Disons que l'Union africaine est la maison commune qui rassemble tous les États membres de cette Union. Je pense que l'Union africaine se doit de rester solidaire aussi bien avec les versions et les arguments avancés par Kigali, autant que les arguments défendus par Kinshasa. Ce n'est pas facile, mais c'est un exercice qui doit être exécuté afin de garder la solidarité entre les pays africains. Et donc, il faut vraiment que ce processus de Nairobi et aussi le processus de Luanda aboutissent à des accords qui rassurent les uns et les autres.
Richard Rangiamandrat, ancien ministre des Affaires étrangères de Madagascar, candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, est l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Entretien complet à retrouver dans une heure et à écouter aussi sur RFI.fr.
Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.
Et c'est le moment de retrouver Maman qui nous dit ce matin qu'en Gondwana, chaque jour ne suffit pas à sa peine. Il y a du nouveau tout le temps.
Oui, on ne s'ennuie jamais en République très très démocratique du Gondwana. Il n'y a jamais une seconde perdue, jamais une seconde sans rebondissement ou nouveauté tombée d'un ciel pourtant clair et limpide. La très très démocratique République fait toujours ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire être la très très démocratique République. Number one dans la sémantique politique, numéro uno dans l'innovation à la une de l'actualité. Aujourd'hui, notre belle République nous fait cadeau d'une phrase à nul autre pareil, une phrase qui, d'un coup un seul, a fait son entrée dans le hood news ou des phrases gondwanaisement incroyables, deux points, ouvrez les guillemets, les autorités sont parties, il ne reste plus que la population. Fermez les guillemets. Oui, tu as bien entendu, cher auditeur, les autorités sont parties, il ne reste plus que la population. C'est un citoyen gondwanais qui parle comme ça devant l'accumulation des galères auxquelles il doit faire face là, dans son coin perdu de la très très démocratique république. Les autorités sont parties, on est tout seul ici. Mais c'est la devise de ce singulier pays au nom si atypique, la très très démocratique république. Une devise qui a toujours été le pain quotidien du gondwanais lambda où qu'il se trouve dans ce pays. Les autorités sont parties, il ne reste plus que la population. Mais le gondwanais lambda a toujours eu la nette impression que les autorités ont été parties depuis le jour 1 où qu'ils se trouvent au Gondwana. Elles sont parties se reposer là-haut dans les étages supérieurs et climatisés des bâtiments ministériels ou du palais présidentiel, loin des en bas, loin des délestages, loin des trous dans les routes, loin des écoles et des dispensaires tétraplégiques, loin des ventres à remplir et des loyers à payer. Elles sont parties là-haut dans les moelleux et larges sièges de la business class, direction Paris, Londres ou Dubaï, loin des en bas. Dans la très très démocratique république, les autorités sont parties parce qu'elles n'ont jamais été là. Bah oui, quand tu es au fin fond du pays, mais elles sont tellement parties que t'as l'impression d'être le premier homme sur la lune. Pas d'âme qui vive, pas de route, pas de lignes électriques, pas de services publics, rien, niente. Les gens n'ont qu'à se débrouiller parce que les autorités sont parties. Au Gondwana, dès que tu quittes Gondwana City, notre belle capitale, c'est comme si tu sortais du territoire national, il n'y a plus rien. Dès que tu quittes Gondwana City, notre belle capitale, tu entres dans un autre pays tout en restant au Gondwana. Les autorités sont parties, elles sont toutes rentrées à la capitale. Mais calme-toi, tu les reverras très très vite, très très bientôt, dès que les élections pointeront le bout du nez. À demain.
À demain. Merci Maman, merci aussi à Laurent Hérault qui était à la réalisation de cette édition d'Afrique Matin, Pierre Pinto à la rédaction en chef, et c'est le moment où je vous souhaite de passer une excellente matinée à l'écoute de la Radio Mondiale et où je passe le relais à Andréane Mellard pour RFI Matin. Bonjour Andréane.
Bonjour Xavier, bonjour à vous qui nous écoutez. RFI Matin, on est ensemble jusqu'à 9h. Au programme aujourd'hui, on va évidemment encore beaucoup parler de l'Est, de la RDC, de la situation sur place. On va aussi évoquer les États-Unis et ses prémices de guerre commerciale. Les États-Unis où se rend le Premier ministre israélien à partir d'aujourd'hui. La France également au programme, encore une semaine décisive qui commence à l'Assemblée nationale. Tout cela, c'est au programme de notre matinée RFI Matin. Ce sont des chroniques, des invités, des reportages. Bienvenue à vous.
Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Émile Zola, tout le monde connaît, mais qui se souvient de Madame Zola, Alexandrine, qui fut le modèle de Manet et Cézanne avant de devenir l'épouse de l'écrivain. Jean-Louis Milési nous embrosse un portrait romancé et sensible dans son troisième roman, Flamboyante Zola.
Sur le Pont des Arts, avec Nathalie Amar. Du lundi au vendredi à 15h10 TU sur RFI.